Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques.
Hey, bonjour à tous, c'est Dr. Ajmo qui vous parle sur les ondes du Francophone. Alors aujourd'hui, je suis de nouveau avec ma collègue Ariane Larrault, notre pharmacienne ici à l'hôpital Santa Cabrini. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un sujet extrêmement intéressant, assez nouveau, puis un petit peu déstabilisant sur la courte durée d'antibiotiques. Alors bonjour Ariane.
Allô.
Salut, ça va bien?
Oui, ça va.
T'es prête à parler d'antibiotiques?
Yes.
Excellent, c'est un de tes domaines de prédilection. T'adores ça, hein, je pense.
Oui.
Écoute, on s'est toujours fait dire, je me rappelle quand on était jeune, on se disait, il faut prendre les antibiotiques jusqu'au bout. Il faut prendre, si c'est 7 jours, c'est 7 jours. Même si on va bien, on les prend parce que sinon on peut augmenter le risque de résistance au niveau des bactéries si on n'a pas un traitement de la durée adéquate. Alors, il semblerait que dans les dernières années, il y a plusieurs études qui viennent un peu mettre ça en doute. Alors, avant de commencer à parler de notre sujet aux soins intensifs, j'aimerais ça que tu me fasses un petit résumé de cette notion-là de la durée d'antibiotiques et de la pertinence de penser que prendre les antibiotiques jusqu'au bout pour la durée précise, prescrite, en fait, va réduire la résistance bactérienne.
Oui, en effet, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a peut-être un an ou deux, il y a eu un papier qui est sorti dans le BMJ qui mettait justement en question, il remettait en question les durées d'antibiotiques, si c'est vrai qu'il fallait absolument les compléter ou pas. Puis ça a fait beaucoup jaser, puis ça l'a déstabilisé pour beaucoup de personnes. Donc, on dirait que depuis que ce papier-là a paru, il y a de plus en plus d'éditoriaux qui sont sortis. Malheureusement, au niveau des études randomisées, contrôlées et tout, on n'en a pas, en fait. On n'en a pas beaucoup. On en a quelques-unes pour certaines indications. Mais quand on se penche vraiment là-dessus, sur ce sujet-là, on réalise que la littérature est assez pauvre en durée de traitement. Puis la fameuse, ce que tu discutais par rapport aux résistances, en fait, c'est que il y a plusieurs bactéries, comme par exemple la gonorrhée, la tuberculose, où les bactéries vont développer une résistance ciblée qu'on appelle. Donc, en fait, ils peuvent développer une résistance pendant un traitement antibiotique. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines infections. Il faut vraiment faire des durées de traitement qui sont assez prolongées, je dirais. Puis, il faut vraiment les compléter. Sinon, la bactérie peut devenir résistante. Comme la tuberculose aussi, on va faire des combinaisons de traitements justement là, pour contrecarrer ce type de résistance-là. Donc ça, je dirais qu'on est rendu bon là, pour gérer tout ça. Par contre, ce qu'on a de plus en plus de difficultés à gérer, c'est ce qu'on appelle la résistance bactérienne collatérale. Ce phénomène-là, on le voit avec les bactéries qu'on connaît sous l'acronyme ESCAPE. Donc on parle du E. coli, on parle du Pseudomonas, les entérobactères, le Klebsiella, l'Acinetobacter, donc c'est ça, il y en a plusieurs, le Staphoreus. Puis en fait, ces bactéries-là, on dit qu'il y a une résistance bactérienne collatérale parce que c'est des bactéries qui sont déjà présentes dans notre flore respiratoire, dans notre flore intestinale. Donc tout le monde est un peu porteur de ces bactéries-là, mais on n'est pas nécessairement infecté, là. Donc on a ça dans notre corps, on fonctionne quand même. Ce qui arrive, c'est que ces bactéries-là, ils vont développer une résistance. C'est par exemple, on va être exposé, comme toi et moi, on travaille dans les hôpitaux. Donc, c'est certain, probablement, qu'on a des petites souches de pseudomonas résistants du méropénème, là, à quelque part dans notre flore, mais qui ne nous infectent pas. Par contre, si, pour une raison X, Y, Z, je tombe malade demain, gravement malade, j'ai besoin d'aller aux soins intensifs, puis tu me dis, oh mon Dieu, Ariane, on a absolument besoin de toi, on va te donner le plus gros canon, on va te donner du méropénème pour te traiter tout de suite. Bien, ça va fonctionner, hein? Mon infection, elle va se résoudre, parce qu'en réalité, probablement, je vais être infectée avec un pseudomonas qui est sensible au méropénème. Mais mes quelques souches que j'avais qui étaient résistantes au méropénème, là, ils vont avoir toute la place pour se reproduire. Dans le fond, on a éradiqué toutes les autres bactéries. Donc là, ils vont pouvoir avoir toute la nourriture, tout l'environnement qu'ils ont besoin pour se multiplier. Puis quand je fais le lien avec la durée de traitement, c'est que tous les jours supplémentaires que tu vas me donner le méropénème, parce que là, tu te dis, Colin, Ariane, je veux vraiment qu'elle se remette sur pied, fait que je vais y faire non seulement pas un 7 jours, mais je vais faire un 14 jours de traitement. Tous les jours supplémentaires qu'on va me donner le méropénème, on vient créer une pression de sélection. Donc, on vient persévérer cette situation-là où les quelques souches qui ont développé la résistance vont pouvoir se multiplier. Puis à un certain moment, ils vont être tellement nombreuses que ils vont pouvoir m'infecter éventuellement.
Ça veut dire qu'au moment où est-ce que l'infection est sous contrôle, moi, si je continue à donner des antibiotiques, mettons, après 5 jours, tout est sous contrôle, puis je décide de donner un 10 jours d'antibio, pendant 5 jours, je vais continuer à détruire la flore autour, puis je vais laisser toute la place à toutes les quelques souches de bactéries qui, eux, ont une résistance à ça, puis ça va leur donner de la place de
croître.
C'est
ça, alors que mon infection était déjà résolue depuis 5 jours. Donc, ces 5 jours supplémentaires-là que tu m'as donné qui ont permis à faire une pression positive à ces bactéries-là résistantes, en réalité, n'était pas nécessaire parce que mon infection était déjà résolue il y a 5 jours.
C'est vraiment intéressant, puis c'est vraiment comme un game changer. Là. On dirait que ça vient changer là, toute la mentalité qu'on avait par rapport aux antibiotiques parce que je ne sais pas combien de fois qu'on a pu se faire dire d'aller jusqu'au bout du traitement. Alors, ça, c'est un des bénéfices, hein, je pense. Mais est-ce qu'il y a d'autres bénéfices à favoriser une courte durée d'antibiotiques?
Bien, les autres bénéfices, c'est sûr qu'ils sont plus évidents, là, comme la réduction des taux de sédif puis des effets secondaires. Donc, on s'entend, nos antibiotiques là, ont quand même un taux de néphrotoxicité, d'hépatotoxicité. Des fois, on voit des cholestases. Donc, c'est tous ces risques-là. Puis c'est sûr que des fois aussi, quand on donne des antibiotiques intraveineux, on peut prolonger les durées d'hospitalisation là, parfois aussi pour ces patients-là.
Naturellement, de vouloir aller vers une courte durée d'antibiotiques, bon, ça plaît à l'esprit avec ce que tu viens de dire là, mais c'est évident que je ne peux pas m'empêcher en tant que clinicien de me dire, ouais, bien là, si je réduis ma courte durée d'antibiotiques, est-ce que je peux nuire à mon patient? Est-ce que je peux empirer? Est-ce que je peux avoir un échec? Est-ce que je vais avoir une infection rebond? Alors, est-ce qu'on a un petit peu d'études qui viennent supporter la courte durée d'antibiotiques? Parce que c'est évident que si je peux réduire ma durée d'antibiotique, je vais me sentir à l'aise de le faire. C'est quand même le traitement numéro un. Puis on le sait que, par exemple, dans un choc septique, on a beau donner tout ce qu'on veut, les amines, les bicarbonates, tout, c'est l'antibiotique qui va faire le travail. Donc, je ne veux pas nuire à mon patient.
Effectivement, c'est un très bon point. Puis, au niveau des évidences, bien, c'est certain qu'on a, comme je disais plus tôt, on n'a déjà pas beaucoup d'évidence sur les durées de traitement. Dans le fond, il y a eu, je vous dis, une méta-analyse qui a été publiée en 2018, qui incluait 19 études randomisées contrôlées, qui s'intéressait un peu à ça, à comparer entre les courtes versus les longues durées d'antibiotiques chez des patients hospitalisés. Est-ce qu'il y avait plus d'échecs cliniques? Est-ce qu'il y avait une différence au niveau de la mortalité ou une différence au niveau des récurrences d'infection? Ces résultats-là étaient, il n'y avait pas de différence là, entre les deux groupes. Par contre, je tiens à mentionner que ce n'était pas tous des études qui étaient effectuées aux soins intensifs. Là. C'était autant au niveau des étages qu'aux soins intensifs. Donc, il faut quand même prendre ces résultats-là avec un certain bémol. Je pense que il n'y a rien qui remplace le jugement du clinicien.
C'est évident que utiliser notre jugement reste la norme, c'est sûr. Quelles indications que tu pourrais me donner, par exemple, aux soins intensifs, parce que tu me dis que les études qu'on vient de discuter n'étaient pas toutes ceux des soins intensifs, entre autres la méta-analyse que tu parles, on va la mettre dans les notes, mais est-ce qu'on a des indications qui sont un peu plus officielles pour une courte durée d'antibiotiques aux soins intensifs?
Bien, je pense que l'indication qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est les pneumonies acquises en communauté. Ça fait quand même depuis 2007 qu'on a des évidences vers des plus courtes durées de traitement, donc on parle d'une durée de 5 jours. On a aussi les pneumonies acquises sous ventilateur, qu'on a depuis 2016 des recommandations avec des niveaux d'évidence modérés, qu'on pourrait aller vers un 7 jours de traitement plutôt que 14 jours.
C'est court, hein, comparé de ce qu'on faisait, là.
C'est ça. Puis ils ont un peu, dans la IDSC, ils ont extrapolé cette durée-là, les pneumonies acquises à l'hôpital, à 7 jours aussi, mais en réalité, il n'y a aucune étude. C'est vraiment une extrapolation des études de pneumonies acquises sous ventilateur. On a les pyélonéphrites, qu'on a des évidences qu'on peut aller à 5 jours quand on utilise les quinolones. Malheureusement, on n'a aucune étude avec les bêta-lactames, donc selon les lignes directrices, il faudrait encore faire un 14 jours avec les bêta-lactames. Puis les infections intra-abdominales, ça c'est peut-être les données les plus récentes qu'on a. Pour des infections intra-abdos compliquées, donc qui nécessitent un séjour aux soins intensifs, on peut aller vers un 8 jours de traitement plutôt que 14 jours de traitement. Suite à l'étude du RAPOP qui a été publiée en 2018, que je vous mettrai en référence. Par contre, juste un bémol, il faut absolument que la source soit contrôlée là, de façon chirurgicale là, pour aller vers un 8 jours de traitement, bien entendu.
Oui.
Plus récemment aussi, on a quelques études qui ont été parues pour les bactériémies, donc d'aller plus vers un 7 jours de traitement. Puis d'ailleurs, il y a l'étude Balance qui s'en vient, qui va vraiment pouvoir répondre à cette question-là. Mais on voit là, les tendances de plus en plus là, vers aller vers une durée de traitement de 7 jours.
OK. C'est quand même assez spécial ce que tu dis, ce que tu racontes. C'est vraiment pas le contraire, mais ça vient un peu bousculer qu'est-ce qu'on s'est fait dire. Juste, tu finissais avec la bactériémie, d'aller vers un 7 jours sur une bactériémie. Je pense que j'aurais de la misère là, au début là, d'aller vers ce genre de courte durée d'antibiothérapie-là. Par contre, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a sûrement des types d'infections qu'on ne peut pas raccourcir la durée d'antibiotiques. Je pense qu'il y a certaines pathologies auxquelles je pense. Là, je ne sais pas si tu pourrais nous en donner quelques-unes qu'il faut se permettre d'aller vers des durées d'antibiotiques de 14, 21 jours ou même plus des fois.
C'est sûr que tout ce qui est ostéomyélite, des pneumocystites, tuberculose, si vous avez endocardite, des indications que c'est très clair qu'il faut des durées plus prolongées, il faut suivre ces recommandations-là. Si on a une source infectieuse qu'on considère qui est probablement non contrôlée, tu sais, des fois, malheureusement, on ne sait pas tout à fait qu'est-ce qui se passe chez le patient, on n'est pas sûr que la source infectieuse est contrôlée, bien, en cas de doute, on est mieux de continuer nos antibiotiques. Si on pense qu'il y a un matériel quelconque qui est infecté, là, comme je disais, les endocardites ou si on a une prothèse de hanche ou quelque chose comme ça. Puis aussi les patients immunosupprimés. Là. Ouais. Donc, chez eux, je ne me risquerais pas à faire des courtes durées d'antibiotiques.
Fait que comment tu favoriserais ça, l'utilisation des courtes durées d'antibiotiques, toi, dans la vie de tous les jours?
Bien, la première chose que je me demande, c'est est-ce que c'est approprié pour ce patient-là? Donc, c'est sûr, c'est qu'est-ce qu'on vient de discuter. Là? Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles il faudrait faire des durées de traitement plus prolongées? D'abord, il faut que je me dise, c'est ça. Est-ce que c'est un patient qui est éligible à une courte durée de traitement? L'autre chose que je vais me demander comme question, c'est, tu sais, cliniquement, mon patient, il a l'air de quoi? Tu sais, c'est sûr que si mon patient est sous 2-3 vasopresseurs, qui va vraiment pas bien, ben, tu sais, je vais peut-être pas me dire, ah, ben, on va arrêter les antibiotiques. T'sais, il faut que le patient soit quand même soit stable. On va regarder aussi est-ce que la température est contrôlée, est-ce qu'il est affaibli depuis au moins 48 heures. Donc, tu sais, il faut quand même, comme je disais, garder en ensemble l'aspect clinique du patient. Puis le petit dernier outil que je trouve qui est très pratique, personnellement, moi je l'utilise quand même assez souvent, de plus en plus, mes collègues aussi on l'utilise de plus en plus souvent, c'est l'utilisation de la procalcitonine. Dans le fond, la procalcitonine, c'est un précurseur de la calcitonine qui est produit par les cellules C de la thyroïde. Quand on a un processus qui est dû à une bactérie, la procalcitonine va augmenter. Donc, ça peut nous permettre de différencier si on fait affaire à une infection virale ou bactérienne. Puis, en fait, la procalcitonine a l'avantage d'augmenter en 3 à 4 heures suivant une infection avec un pic d'activité à 12 à 24 heures. Donc, ça va monter quand même assez rapidement. Puis, il y a un temps de demi-vie qui est quand même assez prolongé. Donc, on peut vraiment la suivre puis nous aider à nous guider à savoir si on peut arrêter un antibiotique.
Donc, c'est drôle, tu parles de la procalcitonine. Moi, ça fait à peu près une dizaine d'années que je la vois passer. C'est un peu l'apanage des microbiologistes, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines études qui ont montré au cours des dernières années que quand on l'utilisait, on avait une augmentation de la mortalité, surtout pour les patients les plus critiques. Y a-t-il quelque chose que tu peux nous dire par rapport à ça? Parce que je pense que ça fait peur à certaines personnes.
Oui, effectivement, la littérature est très controversée par rapport à l'utilisation de la procalcitonine, en particulier à l'urgence puis aux soins intensifs. Je vous invite à lire la méta-analyse que je vais vous mettre en référence. Je l'ai trouvée vraiment, vraiment intéressante. En fait, c'est ça, c'est une méta-analyse qui a vraiment différencié le type de stratégie pour lequel on veut utiliser la procal. Dans le fond, si on prend tous les papiers qui ont été publiés sur la procalcitonine, on va avoir des résultats très divergents parce qu'on met en commun plein de stratégies différentes. On peut utiliser la procal pour savoir si on débute un antibiotique. On peut l'utiliser pour savoir si on cesse un antibiotique. Ou on peut l'utiliser pour faire les deux stratégies en même temps. Donc, dépendamment de la méthodologie de l'étude, s'il utilise la procal juste pour savoir est-ce qu'on débute un antibiotique ou pas, ou si dans leur protocole, ils utilisent la procal juste pour savoir quand est-ce que je peux cesser un antibiotique, mais ça ne va pas donner les mêmes résultats parce que ce n'est pas la même intervention. Donc, la plupart des études qui ont montré une augmentation de la mortalité à l'urgence et aux soins, c'est quand on utilisait la procal pour savoir si je débute un antibiotique ou pas. Donc, je décourage fortement l'utilisation de la procalcitonine pour savoir si je dois débuter un antibiotique ou pas. Si vous avez assez de raisons pour vous poser la question, chez un patient qui est assez malade pour aller aux soins intensifs, c'est probablement mieux de juste débuter l'antibiotique, quitte à l'arrêter une ou deux journées après si on réalise finalement que le patient n'est pas infecté, que de se dire « je vais attendre mon résultat de procal puis je débuterai mon antibiotique à ce moment-là ». Donc, je décourage fortement son utilisation pour cette stratégie-là. Par contre, quand on regarde les résultats des études pour la stratégie de cessation seulement, c'est là qu'on peut voir qu'effectivement, ça l'aide à diminuer les durées d'antibiotiques en moyenne de 1 à 3 jours. Puis, peut-être qu'il y aurait même un effet au niveau de la mortalité vers une réduction de la mortalité. Mais ça, je mets un gros bémol sur ça parce que ça sort surtout principalement dans une étude. Par contre, moi, en tant que clinicienne, en tant que pharmacienne, ce qui m'intéresse, c'est surtout de réduire la durée des antibiotiques, mm-hmm. mais surtout de ne pas avoir un effet sur la mortalité. Dans le sens que je me dis pas, en réduisant la durée d'antibiotiques, je ne m'attends pas nécessairement à réduire la mortalité de mon patient, mais je ne veux pas le nuire, ça, je veux pas lui nuire, ça c'est certain.
Tu veux réduire sa morbidité.
Exactement, mm-hmm. exactement.
Puis je ferai un parallèle avec la troponine. C'est vraiment pas comme une troponine. Hein? C'est une troponine positive, on parle d'héparine. En introduction de traitement, il ne faut pas voir la procale de cette façon-là, comme tu dis. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Votre jugement de clinicien, autant médecin ou pharmacien, doit avoir une primauté sur un résultat négatif de procale. Servez-vous de votre jugement, servez-vous de votre gut feeling, débutez les antibiotiques dans le doute. Là. Fait que finalement, tu l'utilises comment, toi, la procale, dans la vie de tous les jours? C'est quoi un peu votre protocole? Là? Comment vous avez mis ça en place, les pharmaciens de notre hôpital?
Bien, ce qu'on a un peu statué, c'est que d'abord, il faut s'assurer que c'est indiqué de suivre la procalcitonine pour le patient qu'on a devant nous. Un peu le même principe qu'on discutait par rapport aux courtes durées d'antibiotiques. Si jamais j'ai une endocardite, bien, je ne vais pas commencer à demander des procales parce que ça ne changera pas ma conduite. Mm-hmm. Fait que d'abord, il faut se demander, est-ce que si je demande ma procale puis que j'ai le résultat, est-ce que je vais agir ou je vais dire, ah ben non, de toute façon, c'est une ostéomyélite ou c'est une endocardite, fait que, ou le patient est immunosupprimé, puis ma procale n'est pas fiable, donc je ferai rien avec ce résultat-là, bien, on ne le demande pas dans ce cas-là. Fait que d'abord, il faut s'assurer qu'on fait le suivi de la procalcitonine chez le bon patient. Deuxièmement, idéalement, il faudrait avoir notre valeur de base aux soins intensifs. Donc, le jour zéro, soit dès la première journée que le patient reçoit l'antibiotique ou encore mieux, avant que l'antibiotique soit débuté, d'avoir une valeur. Non pas pour décider si on donne l'antibiotique, comme on disait tantôt, mais vraiment pour avoir notre valeur de base pour pouvoir calculer la réduction à 80 % de la procalcitonine qui va nous indiquer qu'on peut commencer à penser à arrêter l'antibiotique. Donc, avoir la procalcitonine au jour zéro, des fois, il faut le faire penser à nos médecins. « Ah, est-ce qu'on peut rajouter la procale pour ce patient-là? J'aimerais ça la suivre par la suite pour m'aider à guider pour la durée d'antibiotique. » Donc, il y a ça à faire.
C'est un travail à faire, surtout aussi avec les médecins de l'urgence, parce que la plupart du temps, les patients, quand ils arrivent aux soins intensifs, ils ont déjà eu une, deux ou trois doses, tout dépendant si c'est Q8, Q12 ou Q6 de l'antibiothérapie. Donc, c'est peut-être même les pharmaciens de l'urgence qui peuvent le faire passer aux urgentologues.
Oui, c'est un très bon point. Puis des fois, je me dis, tu sais, c'est un peu comme quand on demande le bilan, tu sais, nos hémocultures et tout ça. On ne va pas attendre les résultats de l'hémoculture pour donner l'antibiotique, mais on est content de les avoir, mm-hmm. par contre, fait avant l'antibiotique pour pouvoir nous guider de l'antibiotique par
très
la suite.
Bon fait
que c'est un peu la
ouais,
même chose avec
bon
la procale.
Effectivement.
Donc, dès le jour 1 aussi, moi, j'aime ça personnellement, statuer la durée d'antibiotique max que je voudrais faire avec ce patient-là pour l'indication donnée. Donc, par exemple, si on a une VAP, une pneumonie acquise sous ventilateur, puis je me dis, bon, c'est un patient qui, tu sais, ça serait, on pourrait faire un 7 jours avec ce patient-là. Bien, statuons dès jour 1 qu'on va faire un 7 jours total de piperacilline tazobactam, par exemple. Puis si jamais le patient, il va moins bien, puis écoute, en discutant avec le médecin, bien, je pense qu'il va falloir prolonger ça à plus de 10 jours. Bien, au moins, on va s'être posé la question. À 7 jours, on n'a pas le choix de se demander, est-ce qu'on prolonge ou pas? J'aime mieux ça que de me dire, « Hey, on est rendu à 10 jours d'antibiotiques, on a passé tout droit. En réalité, on aurait pu l'arrêter à 7 jours. » Fait que ça, j'essaie d'encourager aussi cette pratique-là. Nos collègues, on essaie d'encourager cette pratique-là de toujours avoir une idée dès jour 1 de la durée d'antibiotiques. Puis à partir de quand est-ce qu'on commence à demander nos procales de suivi, si on veut, pour déterminer quand est-ce qu'on va cesser l'antibiotique? Moi, personnellement, je commence à les demander soit autour du jour 3, à partir du moment, en fait, que tu dirais si j'ai le résultat, puis que le résultat a baissé de plus de 80% ou est inférieur à 0,5, je serais à l'aise de cesser l'antibiotique. Donc, jour 3, c'est quand même assez agressif. Honnêtement, on n'a pas fait souvent, là, donner 3 jours d'antibiotiques. Donc c'est ça. Fait que je dirais plus entre le jour 3 ou jour 5. Ça dépend un peu du patient qu'on a devant nous. Si ça fait 48 heures qu'il est affébrile, que l'évolution va bien, puis qu'on se dit, ah, ben demain, peut-être qu'on pourrait cesser l'antibiotique, ben on peut se dire, ben demain, on va demander la procale. Si le patient est restable, on a une procale qui est négative, ben on cessera l'antibiotique. Fait que c'est un peu à partir de ce moment-là que je commence à demander des procales de façon diée jusqu'à ce qu'on atteigne là, la journée où on se dit, OK, on arrête l'antibiotique.
OK. Donc, finalement, c'est une manière de suivre ton antibiothérapie, un petit peu comme nouveau genre, mais comment ça se passe avec tes collègues médecins? Comment ça se passe quand tu viens les voir puis que tu leur demandes? J'avoue que je connais un peu la réponse là, parce que je travaille avec toi, mais mettons avec mes collègues, comment ça se passe quand tu viens voir puis tu veux arrêter les antibiotiques, par exemple, après 4, 5, 6 jours au lieu de 7 à 10?
Ben ouais, au début c'était un petit peu plus difficile. Il a fallu donner des arguments, essayer vraiment de convaincre les médecins en particulier de l'essayer si on veut. Puis souvent mon argument un peu c'est mais aux soins intensifs on surveille tellement nos patients, on a des températures rectales, on a nos FSC à tous les jours, on a tous les paramètres possibles pour suivre notre patient. Donc à la limite, là, si on arrête l'antibiotique puis que le patient il va un peu moins bien ou il y a quelque chose, bien, on est tout de suite à l'affût pour repartir les antibiotiques. Donc, j'ai trouvé qu'avec cet argument-là, des fois, j'arrivais un peu plus à convaincre les médecins en disant le pire des pires qui va arriver, là, c'est qu'on va juste remettre l'antibiotique. T'sais, dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui va moins bien, en cas de doute, on va les reprendre puis il n'y aura pas un délai de plusieurs jours. Puis, t'sais, on les laisse pas aller, nos patients, aux soins intensifs. Donc, ça, je pense que jusqu'à maintenant, ça a quand même bien été. Puis avec la procalcitonine, c'est comme si ça nous donne un argument supplémentaire pour nous rassurer en tant que clinicien que, OK, t'sais, on peut les arrêter. On a les blancs qui nous convainquent, la température, l'hémodynamie du patient. Puis en plus, on a la procal qui vient un peu rajouter un argument de plus pour cesser un peu plus tôt nos antibiotiques que ce qu'on est habitué de faire. Donc, je le vois vraiment comme un outil clinique qui nous aide à notre décision. Mais peut-être que dans 10 ans, on n'en aura même plus besoin puis qu'on va faire des 5 jours à toutes nos vapes. Puis, tu sais, c'est vraiment, je pense, on est comme dans une période où on commence à jouer avec des plus courtes durées d'antibiotiques. Fait que d'avoir la procalcitonine comme outil clinique de plus, ça vient nous rassurer un peu, je pense.
Je ne peux pas dire que la procal est venue régler tous les problèmes dans notre hôpital, mais nous, comme beaucoup d'hôpitaux, on avait beaucoup de problèmes de maladies nosocomiales, de C. difficile, et avec une stratégie multiple là, de réduction du C. diff, incluant la procalcitonine, on a réduit nos taux de façon significative. On a encore des problèmes comme tous les hôpitaux nord-américains, même du monde, mais je pense que c'est venu aider un peu. J'aurais une question pour toi. En général, ce que tu vois là, avec l'utilisation de la procale quasiment quotidienne pour la plupart de nos patients septiques, ça ressemble à quoi ta durée de réduction? C'est-tu un 10 % un 15 % Je sais que tu n'as pas fait d'études puis tu n'as pas fait de ça, mais ton évaluation là, comme ça, là, rapide, et on a réduit de combien de pourcentage de durée de jour d'antibiothérapie?
Moi, c'est certain qu'il faut quand même... Un élément que je n'ai pas parlé encore, c'est qu'il faut connaître un peu les faux positifs et les faux négatifs aussi de la procalcitonine. Donc, c'est certain qu'il y a quand même, par exemple, on a beaucoup de faux positifs aux soins parce qu'on a des patients qui peuvent avoir eu des traumas, des chirurgies en ischémie intestinale. Fait que je te dirais, honnêtement, jusqu'à maintenant, les endroits où ça a été le plus utile, c'était pour les pneumonies acquises sous ventilateur. Puis ça, je trouve, puis les pneumonies acquises en communauté, à l'hôpital aussi, finalement en pneumonie. Puis je dirais que plus souvent, des réductions de traitement à 5 jours, on en a fait quand même plusieurs, puis ça a bien été. Surtout ceux qui sont rendus avec une trachéo, qui n'arrêtent pas de faire des pneumonies d'aspiration, qu'on n'est pas sûr si c'est vraiment juste une pneumonie ou si c'est infecté, surinfecté. Donc, on va y mettre des antibiotiques juste pour être sûr. Donc, c'est surtout ces patients-là. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a réussi à réduire là,
c'est un bon point significativement parce que les durées d'antibiotiques. Nos trachéos, comme dans tous les hôpitaux, ils surinfectent beaucoup.
Ah, oui,
mais des fois, c'est juste une pneumonite et non pas une pneumonie. Donc, ça ne vaut pas la peine de leur donner des antibiotiques, puis ça va faire des effets secondaires significatifs comme des sédifs, des colectomies à la limite.
Donc, je dirais pour eux, on réussit souvent à réduire de beaucoup, là, peut-être de 5 à 3 jours là, les durées d'antibiotiques.
Moi, c'est ce que j'ai remarqué un petit peu, c'est que souvent, j'arrête les antibiotiques après 5 jours alors que j'aurais fait un 7-8 jours avant. On faisait des 8 jours parce qu'on compte toujours la première journée comme étant non complète, là. Mais en général, on baisse de 2 à 3 jours la durée d'antibiotiques. Puis, bon, on n'a pas d'études là-dessus, mais si on arrête les antibiotiques 2 jours plus tôt puis que mon patient ne complique pas, ben, c'était un succès sur toute la ligne là, de cette manière-là. Alors, pour terminer, s'il y a des pharmaciens ou même des équipes médicales qui t'écoutent, ce serait quoi un peu ton approche pour leur dire comment faire là, pour partir ce protocole-là, discuter avec les médecins, donner des arguments pour essayer de les convaincre à le faire? Alors, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des professionnels qui voudraient essayer d'instaurer ça dans leur hôpital? Parce que c'est vraiment pas partout là, qu'on en trouve là, comme ça.
Bien, c'est certain qu'il faut que la procalcitonine soit accessible, parce que je sais qu'au Québec, il y a encore plusieurs hôpitaux qui n'ont pas accès à la procalcitonine. Mais je pense que ce qui est surtout important, c'est d'encourager la pratique d'aller vers des plus courtes durées de traitement, que ce soit avec ou sans la procalcitonine. Si vous jugez que ce n'est pas nécessaire dans votre pratique, puis c'est correct, là. Moi, c'est juste que j'ai trouvé que d'utiliser la procalcitonine aidait souvent comme argument à cesser un antibiotique plus vite. Ça donne comme une autre valeur objective à remettre aux médecins ou aux cliniciens là, pour nous convaincre qu'on peut arrêter un peu plus tôt. Mais je pense que qu'est-ce qui peut être... en tout cas, moi, ce qui m'a vraiment un peu convaincue qu'on peut aller vers des plus courtes durées de traitement, c'est de faire la revue littérature, de voir comment que les durées de traitement qu'on se dit tout le temps que c'est un gold standard, finalement, n'est pas appuyé sur grand-chose. Puis... donc, tu sais, de se pencher un peu là-dessus, de revoir les niveaux d'évidence qui sont dans les guidelines, comme de l'IDSC, qui suggère de faire un 7 jours. Même le 7 jours, c'est avec un niveau d'évidence qui est faible. Fait que c'est un peu de revoir ça, puis quitte à faire peut-être une petite présentation un midi à vos intensivistes ou collègues, puis de dire, vous voyez, finalement, on peut se permettre probablement de faire des plus courtes durées de traitement, là. Mais sinon, je pense que la procalcitonine est juste un outil de plus pour nous aider à nous convaincre d'arrêter plus vite, là.
Ouais. Je pense que tu as raison. Je pense que depuis que Fleming a développé la pénicilline en 1945, on a eu des effets extrêmement incroyables. On a amélioré la survie de l'humanité avec les antibiotiques. Mais maintenant, on voit l'effet rebond, l'autre côté de la médaille avec ça. Alors, je pense que le message à retenir de ça, c'est si vous n'utilisez pas la procalcitonine, c'est bien correct aussi. Là, chacun fait ce qu'il pense qui est le mieux pour son patient. Mais de vouloir tendre vers la réduction de la durée d'antibiotiques, je pense que c'est ça le message qu'il faut retenir. Puis vous allez voir, c'est dur au début. Je vous le dis, là, on était bousculés. Moi, je me suis senti bousculé par nos pharmaciennes, mais ils ont raison. Sur beaucoup de points, ils ont raison. Puis au bout de la ligne, si vous avez un doute, si vous n'êtes pas certain, bien, votre jugement prime, puis continuez-le les antibiotiques jusqu'à 7, 8, 10 jours. Si vous n'êtes pas certain, si vous avez un mauvais feeling sur le patient, allez-y. Mais dans le cas contraire, essayez de réduire. C'est bon?
Oui, c'est parfait.
Excellent. Merci, Ariane. Vraiment intéressant. Bon sujet de réflexion. Puis on va mettre dans les notes toutes les études auxquelles tu parlais. Je pense que ça peut aider quelqu'un de tout lire ça ou de lire les conclusions pour essayer de voir si la courte durée d'antibiotiques ou l'utilisation de la procalcitonine peut les aider à avancer dans leurs hôpitaux respectifs. Alors, je vous dis au revoir. N'hésitez pas à partager ce balado-là à tous vos collègues et amis. Vous allez nous retrouver sur les plateformes habituelles, Facebook, Twitter, Apple Podcasts, Google Podcasts. N'hésitez pas, on se revoit une prochaine fois. Au revoir.
Salut.
L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.